Alors, vous savez, l'apôtre Paul était un homme de foi, était un homme de combat, était un homme aussi qui savait en qui il avait cru. Si vous lisez 2 Corinthiens, le livre de 2 Corinthiens, vous allez trouver que Paul est souvent donc contesté par rapport à son ministère, contesté par rapport donc à la puissance avec laquelle il agissait. Vous vous rappelez donc au chapitre 2, il va dire qu'il ne veut savoir rien d'autre que Christ et lui crucifié, parce qu'il veut aussi que lorsqu'il prêche, que la puissance de Dieu soit manifestée, et que la foi que les uns et les autres déposent en Christ, c'est une foi qui est basée sur une manifestation donc évidente de la puissance de Dieu. Et alors, tout d'un coup, en 2 Corinthiens, s'il vous plaît, prenons place. 2 Corinthiens, chapitre 2 et verset 14. Il dit, « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. » qui répond par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. La victoire dans laquelle Dieu nous invite à vivre tous les jours. Vous vous rappelez en Romains chapitre 2, il y a cette dichotomie dans laquelle il dit que la chair fait ce que l'esprit ne veut pas et l'esprit n'arrive pas à faire ce qu'il désire parce qu'il y a une loi et un combat donc dans la chair qui nous pousse à faire ce qui ne convient pas, à désobéir à Dieu, à pécher, etc. Et tout d'un coup, il dit au verset 24, chapitre 7, « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Je ne suis plus esclave du péché. Je ne suis plus esclave de la loi du péché. » À plusieurs reprises, nous trouvons cette phrase « Grâce soit rendue à Dieu. » Mais ici, on va parler de la victoire dans laquelle l'apôtre Paul vivait, par rapport à sa confiance dans les promesses de Dieu, par rapport aussi à la certitude de son appel, mais aussi la victoire que nous avons sur le mal, la victoire que nous avons sur les dominations, sur les autorités. Quand nous avons prié pour Valérie et Jean-Claude mercredi dernier, il y a eu certaines manifestations, même démoniaques, pendant les prières. Pourquoi ? Parce que ces personnes, ça fait 20 ans qu'ils sont sous l'emprise satanique, qu'ils sont sous l'emprise de la sorcellerie, qu'ils sont sous l'emprise des malédictions. Et nous avons vécu un moment dans lequel ces malédictions ont été brisées au nom de Jésus-Christ. Et alors, c'est à nous tous de savoir que Dieu nous a donné les outils. Dieu nous a donné les armes. Vous savez, en Éphésiens chapitre 6, si nous lisons rapidement, nous savons que Dieu nous a donné les armes par lesquelles nous pouvons éteindre les traits enflammés du malin. Nous avons les reins de la vérité pour ceinture. Cela parle au verset 14 de la mémorisation de la parole, le fait d'avoir de la parole de réserve. Les soldats, ils ont toujours donc de la munition autour de leur ceinture. Pour moi donc une manière de le comprendre, c'est toujours pas simplement être accroché à la vérité, mais avoir véritablement donc de la munition spirituelle par la parole de Dieu qui est constamment dans nos cœurs, qui est constamment dans nos vies. La mémorisation, le fait de serrer la parole de Dieu dans ton cœur, la méditer. Nous avons aussi donc nous nous protégeons avec la cuirasse de la justice. La cuirasse protège tous les organes vitaux. Nous avons aussi les chaussures à vos pieds, le zèle qui donne l'évangile de paix. Soyons actifs en répandant cet évangile de paix. C'est nos pieds qui sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent donc ce message, cet évangile de paix. Le bouclier de la foi par lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Le casque du salut. Le casque du salut, c'est la certitude de ce qu'on sait, la certitude de ce qu'on sait dans notre intellect qui a été touché par la Seigneurie de Jésus-Christ. Vous savez, on lit la parole de Dieu, ça rentre ici, ça descend dans le cœur et ça se traduit par les actes. Le casque du salut, je sais en qui j'ai cru. Je sais qu'il n'y a rien qui peut me faire déchoir de la fermeté en Christ. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et aussi, faites en tout temps toutes sortes de prières. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Nous sommes appelés à être victorieux. Nous sommes appelés à marcher avec un esprit conquérant. Avec un esprit conquérant. Vous savez, dans la Bible, il y a plusieurs cantiques de victoire. Regardons Exode chapitre 15. Déjà, en Exode chapitre 14, verset 14, la page précédente, Moïse avait dit au peuple qu'il devait s'attendre à l'action de Dieu. Et il leur disait, l'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Alors que se passe-t-il? Au moment quand les Égyptiens ont commencé à rentrer sur la terre sèche, parce que vous savez que la mer s'était ouverte, et il y avait un grand passage qui s'était ouvert, et le peuple d'Israël avait passé sur cette mer sèche, et quand donc les soldats ont commencé à les poursuivre, et ils sont rentrés eux sur la terre sèche, c'est là où l'eau s'est renfermée, ils ont tous été engloutis, et l'ennemi à l'époque a été complètement anéanti, alléluia. Il y a un verset dans le psaume 7 qui dit, les uns font confiance à leurs chars, les autres font confiance dans leurs chevaux, mais nous notre confiance est dans le nom de l'Éternel, alléluia. Et donc il y a un cantique de victoire, Exode chapitre 15. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel et dirent, je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer rouge. Les flots les ont couverts. Ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses les adversaires. Tu déchaînes ta colère et les consumes comme du chaume. Au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées. Les courants se sont dressés comme une muraille. Les flots se sont durcis au milieu de la mer. L'ennemi disait, je le poursuivrai. Je l'atteindrai. Je partagerai le butin. Ma vengeance sera assouvie. Je tirerai l'épée. Ma main les détruira. Mais toi, tu as soufflé de ton haleine. La mer les a couverts. Ils se sont enfoncés comme du plomb dans la profondeur des eaux. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? Tu as étendu ta droite, ta terre les a engloutis. Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple. Par ta puissance, tu les diriges vers la demeure de ta sainteté. Le peuple l'apprenne, il tremble. La terreur s'empare des Philistins. Le chef des noms s'épouvante. Du tremblement saisit les guerriers de Moab. Tous les habitants de Canaan tombent en défaillance. La crainte et la frayeur les surprendront par la grandeur de ton bras. Ils deviendront muets comme une pierre jusqu'à ce que ton peuple soit passé, ô Éternel, jusqu'à ce qu'il soit passé, le peuple que tu as acquis. Tu les amèneras, tu les établiras sur la montagne de ton héritage, au lieu que tu as préparé pour ta demeure, ô Éternel, au sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont fondé. L'Éternel régnera éternellement et à toujours. Car les chevaux du Pharaon, ses chars et ses cavaliers sont entrés dans la mer. L'Éternel a ramené sur eux les eaux de la mer. Mais les enfants d'Israël ont marché à sec au milieu de la mer. Marie la prophétesse, sœur d'Aaron, pria sa main un tambourin. Et toutes les femmes vinrent auprès d'elle avec des tambourins en dansant. Marie répondait aux enfants d'Israël, chantez à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Quel cantique de victoire! Quel cantique, quelle expression de la louange envers Dieu qui avait été fidèle à ce qu'il avait promis au travers donc son serviteur Moïse. En Juges chapitre 5, Juges, donc c'est le livre juste après Josué, après les cinq livres, le premier livre, Josué, Juges, Juges chapitre 5, dans les premiers cinq versets, Déborah chante ce cantique avec Barak, fils d'Abinoam. Des chefs se sont mis à la tête du peuple en Israël, et le peuple s'est montré prêt à combattre. Bénissez-en l'Éternel, rois écoutez, princes prêtez l'oreille. Je chanterai, oui, je chanterai à l'Éternel. Je chanterai à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ô Éternel, quand tu sortis de Séir, quand tu avanças des champs d'Édom, la terre trembla et les cieux se fondirent, et les nuées se fondirent en eau. Les montagnes s'ébranlèrent devant l'Éternel, ce Sinaï devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. Jérémie chapitre 10, tout simplement, à trois reprises, on trouve la phrase « Nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Nul n'est semblable à toi. » Nous avons aussi un cantique de victoire concernant ce que Jésus-Christ a fait sur la croix pour nous. En Colossiens chapitre 2, il y a deux versets en particulier, verset 13. Colossiens chapitre 2 et verset 13 à 15. « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. » C'est encore un cantique de victoire. Dans la fin des temps, nous voyons en Apocalypse chapitre 7, il y a une foule qui va chanter encore un cantique de victoire. Apocalypse chapitre 7 et verset 9. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards, des quatre êtres vivants. Et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu. Et en disant « Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action des grâces, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » Apocalypse chapitre 15 et verset 1. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, cet ange qui tenait sept fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Et je vis qu'une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre ayant des harpes de Dieu. Et ils chantent le cantique de Moïse, qui se trouve où? En Exode chapitre 15. Le serviteur de Dieu et le cantique de l'agneau, en disant, tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et qui ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Un cantique de victoire, un cri de victoire. Nous sommes appelés à être un peuple de victoire. Nous sommes tous des trophées de la puissance victorieuse de Dieu en Christ. Nous sommes faits de la poussière, la Bible dit. Nous ne pouvons prétendre à rien du tout. Mais nous sommes aujourd'hui, nous qui étions donc un grain de sable insignifiant, piétiné sur le rivage. Aujourd'hui, nous sommes devenus temple du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous sommes devenu vase d'honneur, alléluia, dans les mains de Dieu, un instrument utile entre tes mains. Nous sommes tous des trophées de la puissance victorieuse de Dieu en Christ. Mais nous sommes aussi inspirés et guidés par son triomphe. Il a triomphé, alléluia, il a triomphé sur la mort, nous allons le lire tout à l'heure. Il a triomphé. En Christ, nous sommes plus que vainqueurs, alléluia, par celui qui nous a aimés. Quand Valérie et Jean-Claude ont commencé à me téléphoner, il y a 4-5 mois, c'était des coups de fil à minuit, c'était des coups de fil la journée. Ils étaient désespérés. Mais Jean-Claude, qui n'avait jamais fait un pas, qui n'avait jamais donné son cœur à Jésus, il avait vu sa femme aller d'église en église, des églises catholiques, des églises évangéliques, etc. Et depuis 20 ans, ils sont dans la souffrance et ils ne voulaient pas, lui, rencontrer quelqu'un avec qui pourrait prier pour lui. Et alors pendant 4 mois, et j'avais des coups de fil, et je disais, mais je ne peux pas vous rencontrer, on ne peut pas vous voir, on va prier pour vous, bien sûr, parce qu'elle me demandait de prier, elle me demandait de passer des heures dans la prière, déjeuner et prier. Je disais, mais on ne peut pas vous rencontrer, on ne peut pas parler avec vous, on ne peut pas prier pour vous et prendre autorité. Ah oui, mais mon mari, il ne veut pas vous voir. Donc ça a duré pendant 4 mois. Et il y a un mois, donc elle m'appelle, elle me dit, ça y est, il accepte. Donc ils sont venus un mercredi soir et on a parlé pendant 2-3 heures. Ils ont raconté tout ce qu'ils avaient vécu et tout ce qu'ils avaient subi. Et j'ai dit, vous êtes venus au bon endroit, sans aucune prétention. Mais ici, la présence de Dieu et la puissance de Dieu est là pour vous libérer, est là pour vous conduire sur un chemin de victoire. Et Valérie dit, ah non, mais moi je ne crois pas. Moi j'ai plus la foi, c'est terminé, de toute façon, moi Dieu, etc. Alors, la semaine d'après, on s'est vu encore 3 heures, et il y avait une opposition, il y avait des doutes, il y avait bien sûr la colère, etc. Mais petit à petit, ils ont commencé à imaginer que peut-être il y aurait des changements, peut-être il y aurait des choses que Dieu commencerait à faire. Et au troisième rendez-vous, Jean-Claude a donné son cœur à Jésus-Christ. Alléluia. Quand il m'a téléphoné, donc mercredi d'abord, et ensuite quand il est venu à l'église mercredi dernier, il a dit, peu importe ce que le médecin m'a dit, moi j'ai la paix. Mais il y a un mois, je n'avais pas la paix. Il y a un mois, j'étais complètement donc, dans le désarroi. Je me rends compte aujourd'hui que je suis rassuré. Je suis en Christ. Je suis en Christ. S'il vous plaît, il y a des personnes qui l'entendent dans la cuisine. Là, s'il vous plaît, il faut... Je sais qu'il y a des mamans parfois, mais voilà. Il faut que des personnes rentrent. Alors, donc, c'était rassurant pour lui. Et lui, il a commencé à imaginer que peut-être, sa vie pouvait être autrement. Ah, les épreuves ont continué. Parce que jeudi, elle m'a téléphoné, elle m'a dit, tu sais, à mon travail, la directrice veut me renvoyer. Alors, c'est le maire du village qui est de son côté, etc. Elle a dit, mais on est en paix. Alors, je lui ai dit, mais est-ce que tu continues à lire la Bible? Oui, on commence à lire la Bible. On a lu un Jean, donc les 5 chapitres. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. L'amour de Dieu bannit la crainte, etc. Vous savez, quand des personnes ont été dans une telle mentalité, à quel moment est-ce qu'ils vont comprendre que Dieu a fait tout pour qu'il soit toujours triomphant en Christ. Je me rappelle une fois au Mexique, il y a un homme qui était chauffeur de taxi qui s'est converti. Sa femme venait à l'église depuis 2 ans. Lui, au début, il la battait, il buvait, etc. Mais le jour est venu quand il a accepté Christ dans son cœur. 3 semaines après, il était dans son taxi et il arrive à la gare d'autobus. Et il y a un homme qui rentre dans le taxi. Et cet homme, à cause de la sorcellerie, il avait un œil qui était ici et un autre par ici. Et il dit au taxi, il dit, emmenez-moi à l'hôpital la plus grande renommée dans la ville. Et l'homme, le taxi, nous venait dans la foi, il a dit, mais vous n'avez pas besoin de l'hôpital, vous avez besoin d'aller à l'église, foi, espérance et amour. Et il arrive donc à l'église, mes parents étaient là. Et le couple était dans un désarroi inimaginable. Pendant un mois, ils ont prié pour lui, jour et nuit. Il y avait combat. Ils ont prié. Et un mois après, ses yeux étaient devenus normaux, complètement. Complètement normal. Dieu avait guéri. Dieu était intervenu. Dieu les avait délivrés. Et là, il dit à mon papa, je ne retournerai pas chez moi que si vous n'envoyez pas quelqu'un qui aille chercher mes 3 fils. Mes 3 fils sont attachés à un poteau dans la cour de la maison. Ils sont nus parce qu'ils déchirent tous leurs vêtements. Qu'il pleut, qu'il fasse beau, qu'il pleut, ils sont toujours là. Ils mangent très très difficilement. Cela fait 14 ans qu'ils sont attachés à ce poteau. Et mon frère Timothée est parti avec une équipe de plusieurs pasteurs, 2-3 camionnettes. Parce qu'ils pensaient qu'on va ramener un chacun dans une camionnette. C'était à peu près à 8 heures de route. Et ils sont partis là-bas. Ils ont passé une semaine à prier pour eux. Ils ont commencé à se calmer. Mais ils étaient sous l'emprise satanique. Et le jour est venu quand ils les ont amenés. Moi, j'étais à l'école biblique à l'époque. Bon, c'était en 72. J'étais à l'école biblique et ils nous annoncent à tous les étudiants... On va prier pour eux jour et nuit. Alors inscrivez-vous sur la liste à quel moment vous allez vous engager à prier. Et vous allez prier pour eux et vous allez reprendre l'ennemi et on va reprendre ce terrain et reconquérir le terrain que le diable a pris. Et alors pendant un mois, on a été constamment On faisait donc un tour de rôle, il y avait des pasteurs qui arrivaient, des étudiants de l'école biblique. On allait, on priait pendant des heures. C'était fatigant, c'était un combat. Parfois il y avait des réactions, parfois il y avait des coups qui partaient. Parfois il y avait des vulgarités qui sortaient de leur bouche, etc. Et alors, il fallait vraiment, vraiment s'accrocher, vraiment être là présent. Et au bout d'un mois, Dieu les a entièrement délivrés. Ils sont repartis habillés, ils sont repartis différents. Il y a une église qui s'est ouverte dans leur village, dans leur petit patelin. Il y avait à peu près 700 personnes dans le patelin. Et donc, quelques mois après, presque tout le village allait au culte. Il y a une église qui est née parce que la puissance de Dieu s'est déployée, s'est manifestée. Alors, c'est des expériences que nous ont montré que pour Dieu, il n'y a rien d'impossible. Pour lui, il n'y a rien d'impossible. Aujourd'hui en France, il y a beaucoup de personnes qui sont sous l'emprise des marabouts, de la voyance. Il y a beaucoup de gens qui consultent les cartes. Il y a beaucoup de gens qui vont voir les voyantes, qui vont voir des boules de cristal, etc. Il y a beaucoup de personnes qui sont sous l'emprise de l'ennemi. Ils ont besoin d'être délivrés. Ils ont besoin de savoir que Jésus-Christ a obtenu un triomphe pour eux. Il a obtenu une victoire aussi pour eux. Alors c'est à nous. C'est à nous de dire, mais le Seigneur nous a donné les outils, le Seigneur nous a donné donc la foi, le Seigneur nous a donné aussi la puissance avec laquelle nous devons agir. Et si on doit jeûner et prier pendant quelques jours, et vraiment nous placer devant le Seigneur et dire, Seigneur, je veux agir avec ta puissance, je veux que ta puissance se manifeste, que partout où on va, on ait une odeur de vie, alléluia, on ait une odeur de vie, car grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Il nous fait participants de son triomphe. En 2 Corinthiens chapitre 10 et versets 3 à 5, il nous dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas des armes physiques. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et tout hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Pourquoi sommes-nous un peuple de victoire aujourd'hui? Car Jésus a été obéissant jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix. Et nous sommes participants de son triomphe. Alors nous avons la victoire grâce à Christ. Grâce à Christ. Il est vainqueur et nous sommes aussi plus que vainqueurs. 1 Jean chapitre 3, verset 3 à 9 nous dit que le Fils de l'homme est paru pour détruire les œuvres de l'ennemi. Nous avons cette espérance en nous de le voir face à face. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même il est pur. Quiconque pêche transgresse la loi et le péché la transgression de la loi. Or vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point, quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Mais le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Grâce à Christ, nous sommes victorieux. Grâce à la résurrection de Christ, nous sommes un peuple de victoire. 1 Corinthiens chapitre 15, c'est le chapitre de la résurrection. 1 Corinthiens chapitre 15, il y avait ceux qui s'y opposaient à la résurrection. Les Sadducéens disaient qu'il n'y avait pas de résurrection. Et là, l'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, il va parler à l'église de Corinthe et il va leur dire la manière de contre-attaquer ceux qui disaient que la résurrection de Jésus n'était pas valable. Verset 12, « Si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts ? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. » Car si le mort ne ressuscite point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Le verset 51 de ce même chapitre, en Corinthiens 15. « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous, nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque le corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. La puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. Travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Verset 25 nous dit, de ce même chapitre, « Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. » Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Il faut qu'il règne. Il règne aujourd'hui et nous sommes plus que victorieux avec lui. Nous avons la victoire grâce à Christ. Nous avons la victoire grâce à sa présence. Sa présence dans notre vie. Sa présence tangible. En Jean 16, 33, il dit, « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde, je suis avec vous. » Alléluia. Emmanuel, Dieu avec nous. En 2 Chroniques 32, il y avait le roi Sennacherib qui voulait attaquer le peuple de Dieu. Et c'était le temps d'Ézéchias. Et Ézéchias, il va parler au peuple, il va leur dire, « Fortifiez-vous, ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et la multitude avec lui. Car avec nous, il y a plus, alléluia, qu'avec lui. Avec lui est un bras de chair. Avec nous, l'Éternel, notre Dieu, il nous aidera et il combattra pour nous. » Alléluia. Il combattra pour nous. Notre combat n'est pas un combat charnel. Je disais à Valérie, mais tu ne peux pas en vouloir les personnes. Elle sait qui sont les personnes qui pratiquent la sorcellerie. Elle sait qui sont les membres de sa famille qui la pratiquent. Mais tu ne peux rien faire contre eux. Tu ne peux pas les attaquer. Tu ne peux pas leur en vouloir. Ils sont complètement sous l'emprise du diable. Ils ne connaissent pas la vérité. Ils ne connaissent pas donc non plus la liberté. Alors, il faut prier pour eux. Et bon, bien sûr, c'est difficile parce qu'elle sait. Elle sait exactement quelles ont été les choses. Elle sait quelles ont été les choses qui ont été prises chez elle. Vous savez, une fois au Mexique, on avait un jeune homme qui était complètement bien, qui était à l'école, etc. Et tout d'un coup, d'un jour à l'autre, il est devenu alcoolique, comme ça. Mais il buvait jour et nuit. Jour et nuit, là, il n'est plus allé à l'école. Et on ne comprenait pas pourquoi. Et sa mère est venue à l'église. Elle nous a demandé la prière. Et là, on a su. Et pendant qu'on priait, Dieu a révélé à quelqu'un qui priait que la photo de ce garçon était mise dans un verre d'alcool. Et alors, on a demandé à la mère, est-ce que vous savez de quelqu'un qui aurait pris la photo de votre fils? Ah oui, il y a une voisine qui m'a demandé des photos et je lui ai donné une photo il y a un mois. Et alors, ce jeune homme, il entendait pas raison, il buvait jour et nuit. Il était complètement devenu donc accro à l'alcool, instantanément comme ça. Et on est allé chez la voisine et on a trouvé la photo. On a sorti la photo du verre d'alcool et il a été libéré instantanément. Vous savez, la sorcellerie marche. Mais plus grand est celui qui est en nous que celui qui est dans le monde. Celui qui est dans le monde. Nous savons qu'il y a des personnes qui sont dans les ténèbres. Il y a des personnes qui ne savent pas qu'il y a une libération. Je me rappelle même, il y avait des personnes qui allaient aux autorités ecclésiastes au Mexique, qui n'aimait pas le voisin à côté, qui payait aux autorités ecclésiastes en disant, voilà, on vous donne de l'argent pour que vous puissiez donc jeter une malédiction sur les voisins. Oui. Il y a eu des prêtres donc, qui se sont convertis, qui ont admis qu'ils l'avaient fait. Alors, c'était des personnes qui étaient complètement aveuglées. Il ne savait pas. Aujourd'hui, nous savons que Dieu combat pour nous. Nous savons que Dieu nous donne l'autorité et sur toute domination, sur toute puissance, et nous l'avons en Christ. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait triompher en Christ, qui nous rend plus que victorieux en lui. Aussi, nous avons la victoire grâce à ses promesses. Grâce à ses promesses. Combien de promesses dans la Bible? 8321. C'est le frère Waylon Moore hein, qui nous avait donné ce secret. Hein. Alors, combien de fois dans la Bible on trouve « ne craignez rien » 365 fois, une fois par an. Deutéronome chapitre 33. Deutéronome 33. Et le verset 24. Sur Azer, il dit, « Béni soit Azer entre les enfants d'Israël, qu'il soit agréable à ses frères et qu'il plonge son pied dans l'huile. Que tes verrous soient de fer et d'airain, que ta vigueur dure autant que tes jours. Nul n'est semblable au Dieu d'Israël. Il est porté sur les cieux pour venir à ton aide. Il est avec majesté porté sur les nuées. Le Dieu d'éternité est un refuge. Et sous ses bras éternels est une retraite. Devant toi, il a chassé l'ennemi. Et il a dit, extermine. Israël est en sécurité dans sa demeure. La source de Jacob est à part dans un pays de blé, de mou. Et son ciel distille la rosée. Que tu es heureux, Israël, qui est comme toi, un peuple sauvé par l'Éternel, le bouclier de ton secours et l'épée de ta gloire. Tes ennemis feront défaut devant toi et tu fouleras leur lieu élevé. Quelle promesse! Quelle promesse! Romains chapitre 8, ces promesses. Verset 31. Si tu es pour nous, qui sera contre nous? Si tu es pour nous, qui sera contre nous? Que dirions-nous à l'égard de ces choses? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus des dieux? Personne, c'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite des dieux, et il intercède pour nous en plus, alléluia! Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Victoire grâce à ses promesses. Victoire grâce à sa protection. Deux Chroniques chapitre 16 et verset 9 nous dit « Les yeux de l'Éternel parcourent la terre entière. Ses regards sont sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Pour se montrer fort à l'égard de ceux qui ont un cœur pur. Ses yeux parcourent la terre entière. Il est notre protection. » Le psaume 91. Le psaume 91, dans certaines cultures, est un peu comme un mantra. Hein? Moi, je connaissais des personnes qui ne sortent pas de chez eux sans lire et sans donc dire par cœur le psaume 91. Mais le psaume 91, c'est un psaume de protection. Mais c'est un psaume hein, pour qui? Pour ceux qui demeurent sur l'abri du Très-Haut, qui reposent à l'ombre du Tout-Puissant. Si on ne repose pas à l'ombre du Tout-Puissant, si on ne demeure pas à l'abri du Très-Haut, ces promesses ne pourront pas être appliquées à notre vie. Là, on peut dire, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseau, de la peste et de ses ravages, il te couvrira de ses plumes, il te trouvera un refuge sous ses ailes, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse qui ne craindra ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Verset 14, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, je le glorifierai, je le rassaisirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Ses promesses sont oui et amen. Que s'est-il passé avec Daniel? En Daniel chapitre 6, Daniel avait désobéi. Le roi avait donné un décret Vous ne pouvez plus adorer un autre Dieu que les dieux étrangers. Et la Bible dit que Daniel, il a fait comme si de rien n'était. Ah, il a entendu la menace. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé, il a ouvert sa fenêtre vers Jérusalem, comme c'était l'habitude à l'époque. Et il a prié Dieu. Il a ouvert son cœur devant Dieu. Et au verset 16 du chapitre 6, le roi qui aimait Daniel, parce que Daniel était un homme avec un esprit excellent, un esprit supérieur, la Bible dit. Le roi qui aimait Daniel, qui aussi avait vu et entendu que Shadrach, Meshach et Abednego avaient été libérés de la fournaise ardente. Mais là, Daniel, son intendant, un de ses gouverneurs, il avait désobéi à sa loi. Et au verset 16, alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. » Imaginez, le roi lui dit, « Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer, mais je sais que tu vas vers la fosse aux lions, je sais que les lions, ils n'ont pas mangé depuis longtemps, alors Daniel, mais puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. » On apporta une pierre et on l'a mis sous l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeûne. Il ne fit point venir de concubine auprès de lui. Il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore. Il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Et Daniel dit au roi, « Roi, vis, alléluia, éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. » Alors le roi fut très joyeux et l'ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Nous savons que la ristourne a été que le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel furent emmenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tout leur os. Mais celui qui se confie en l'Éternel était protégé. Et le roi savait, il lui dit, mais puisse ton Dieu te délivrer. Nous avons la victoire grâce à ses promesses, grâce à sa protection, grâce à sa présence, grâce à Christ, grâce à la persévérance, grâce à l'obéissance. Ce n'est pas d'obéissance que nous suivons. Et nous voyons comment Dieu, il accomplit ses promesses. Mais aussi nous avons la victoire à cause de notre foi. 1 Jean chapitre 5 nous dit et nous prépare pour lire cette phrase qui dit que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ce n'est pas nous, c'est la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi en Christ. Alléluia. Selon Corinthiens, nous ne marchons pas selon la vue, nous marchons par la foi. Pendant que l'ennemi venait pour accomplir la punition que Dieu avait préparée pour son peuple, dans les prophètes mineurs, nous trouvons la phrase « Mais le juste vivra par la foi ». La persévérance, le juste vivra par la foi. La foi, c'est le fait de croire en Dieu. Pas seulement de croire qu'il existe, mais qu'il est rémunérateur de ceux qui le cherchent. De croire que Dieu peut se manifester dans les cœurs de ceux qui ont faim et soif de sa justice. Est-ce que nous marchons en étant victorieux? Est-ce que nous marchons en étant conscients ce que Jésus-Christ a payé pour qu'aujourd'hui nous soyons libres. Nous avons prié, nous avons chanté par rapport aux chaînes qui sont brisées. Nous avons chanté par rapport donc à ce poids du péché qui est brisé. Nous avons lu par rapport aux ordonnances qui nous accusaient, par rapport aux condamnations qui étaient évidentes, qui étaient réelles. Mais Jésus-Christ, il les a clouées sur la croix, alléluia. Et aujourd'hui, il nous appelle à marcher en victoire. Est-ce qu'on pourrait chanter, l'équipe de louange, si on pourrait chanter le chant « Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. » Et que chacun de nous, nous soyons prêts à dire « Seigneur, nous voulons, Seigneur, marcher dans cette victoire. Nous voulons confronter les situations. Nous voulons prendre autorité quand il le faut. Nous voulons prier, même si c'est dans la rue, si c'est là où tu nous places. Seigneur, nous avons une clé de victoire. Et tu nous invites ce matin, Seigneur, à nous approcher de toi. À nous approcher de toi. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Tu fonds la mer et je peux la traverser, comme tu as fait pour le peuple d'Israël. Seigneur, parce que ma confiance est en toi. Je ne suis plus enfant, esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Si tu veux tout simplement manifester cette conviction, la victoire dans laquelle Dieu t'invite à participer jour après jour, si tu veux être revêtu de cette certitude, de cette conviction qu'il n'y a rien qui peut nous nuire. Il n'y a rien qui peut nous nuire. Lorsque nous sommes entièrement consacrés à Dieu, il n'y a rien qui peut nous nuire. Le diable peut essayer de tout faire pour essayer de nous faire peur, mais nous ne serons pas intimidés, alléluia. Nous savons que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il peut dévorer. Mais alors, nous sommes plus que vainqueurs et nous sommes victorieux en Christ. Il peut se fatiguer de rôder autour de nous au nom de Jésus. Il peut se fatiguer, pourquoi? Parce que nous n'avons pas laissé les portes ouvertes, nous n'avons pas laissé une attitude ouverte. Nous n'allons pas permettre qu'une insoumission envers Dieu nous empêche de résister le diable, de voir le diable fuir. Mais si ce matin, tu dis, moi je veux vraiment être rassuré dans mon cœur que oui, je suis vainqueur, que oui, je suis victorieux en lui, je t'invite à venir devant pendant que nous chantons ce chant. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. Si tu veux simplement dire, Seigneur, donne-moi cette conviction de victoire à laquelle tu m'invites à participer jour après jour, afin que je puisse libérer, afin que je puisse, Seigneur oh Dieu, vraiment, Seigneur, élever, Seigneur, ceux qui ont le cœur brisé. Venez, approchez-vous, approchez-vous. Levez vers vos mains vers le Seigneur. Approchez-vous, approchez-vous. Alléluia.